Aujourd'hui, 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin et c'est ce qui a inspiré Jean-François Chabot pour sa chronique de cette semaine. Jean-François, bonjour!
Bonjour Sébastien!
Donc, des fois tu parles d'une journée qui s'en vient dans quelques jours, tout ça. Aujourd'hui, on est pile poil dessus.
On est pile poil dessus, en effet. Donc, ça a commencé en 2014, ça, d'avoir la Journée internationale du sport féminin, comme ça, le 24 janvier. Et puis, bon, pourquoi ils l'ont mis en place? C'est dans le fond pour développer la pratique du sport féminin, hein, pour que les femmes fassent plus de sport, pour avoir plus de femmes aussi dans les postes de dirigeantes sportives. Puis on voit qu'il y en a de plus en plus. Même aujourd'hui, il y a une nouvelle, Émilie Castonguay, qui a été nommée adjointe au DG des Canucks de Vancouver.
Oui, c'est vrai.
Donc, il y en a de plus en plus comme ça. Et finalement, pour médiatiser le sport féminin. Parce qu'il n'est pas beaucoup médiatisé. Hein? J'ai même des chiffres à l'appui. En 2017, il y avait seulement 20% du sport présenté à la télévision qui était féminin. C'était quand même une amélioration parce qu'en 2012, c'était 7%.
OK, oui, une amélioration, mais on me semble qu'on pourrait peser sur l'accélérateur un petit peu. Puis on parle de cas récents, on pense à nos championnes de soccer féminin qu'on voit aux Olympiques, mais qu'on voit pas le reste de l'année, puis le reste des
non, c'est
ans.
Ça, c'est ça. Au hockey aussi, l'équipe nationale féminine, on la voit pas à part les compétitions, non, c'est ça. On connaît aussi généralement mieux les sportifs que les sportives. Par exemple, Sidney Crosby, Carey Price sont beaucoup plus connus que Marie-Philippe Poulin, qui pourtant est la meilleure joueuse de hockey au monde.
Oui, effectivement, le nom résonne moins, disons.
Il résonne moins, oui. On va faire un petit survol maintenant de l'histoire, de l'évolution du sport féminin, parce que ça n'a pas toujours été évident pour les femmes dans l'histoire. Hein? On le sait. Dès 1500 avant Jésus-Christ, il y a des femmes qui chevauchaient des taureaux en crête pour faire comme un genre de rodéo. Donc, il y avait un petit peu d'action là.
OK.
Après ça, en 1000 avant Jésus-Christ en Grèce, les femmes n'avaient pas beaucoup de droits. Ça, c'est arrivé souvent dans l'histoire que les femmes n'avaient pas beaucoup de droits. Elles avaient le droit d'être des mères, des filles ou des épouses, puis c'était tout, là. Mais deux semaines après les Jeux olympiques, il y avait les Jeux Éréens pour femmes seulement. Puis les gagnantes recevaient une couronne d'olivier et un morceau de la vache qui était sacrifié pour la déesse Héra.
OK.
En 440 avant Jésus-Christ, Kallipateira s'est infiltrée en cachette aux Jeux olympiques. Elle s'est déguisée en homme pour être l'entraîneur de son fils. Elle s'est démasquée après la victoire. Elle n'a pas été punie par sa famille, avait une bonne renommée. Mais dans les années suivantes, les autorités ont décidé que les sportifs et les entraîneurs devaient concourir nus. C'était le premier test de féminité.
On voulait plus se faire avoir, entre guillemets. Non, là. C'est ça. Et là là.
Là, oui. En 396 avant Jésus-Christ, on a autorisé les femmes aux Olympiques, mais seulement pour les épreuves équestres, là, à cheval.
OK.
Puis après ça, pendant plusieurs centaines d'années, bon, la situation des femmes s'est pas améliorée. Même au Moyen Âge, c'était pas mal pire. Le sport était officiellement réservé aux hommes, juste aux hommes. En 1424, une femme nommée Margot réussit à battre des hommes au pompe, qui est un ancêtre du tennis. Donc, il y avait quand même des bonnes femmes, mais il fallait qu'ils fassent du sport en cachette. Mais la situation était quand même meilleure pour les femmes ailleurs qu'en Europe ou en Asie. Même dans les pays arabes, la situation féminine était bonne avant les croisades.
Okay.
C'est les Européens qui ont gâché ça. oui. Puis en Amérique aussi, les femmes autochtones pratiquaient des sports comme le shinny, qui ressemblait au hockey, ou le bagataway, qui ressemble à la crosse. Mais l'arrivée des colons européens a changé la place des femmes dans la société. Ils ont vraiment pris le contrôle, propagé les préjugés de l'Église. Donc, les femmes autochtones ont perdu le droit de faire du sport. Seules les femmes blanches et riches pouvaient en faire, mais encore une fois, c'était limité.
Oui, c'est ça. Pas ce qu'on voulait, là.
Bateau, patin, cricket, pêche, équitation ou chasse au renard.
OK.
Mais pas beaucoup de compétition. Hein. C'était vraiment pour le plaisir.
OK, parfait.
En 1870, les femmes ont commencé à participer à des concours de marche aussi. C'est encore léger, c'est pas du gros sport. Puis, les femmes ont eu le droit de participer à des régates aussi. Même des femmes autochtones ont pu être incluses dans les courses de canot, mais bon, c'est ça. Il n'y en avait pas beaucoup. En 1880, il y a eu l'arrivée des nouveaux vélos plus sécuritaires qui ont permis à plus de femmes de rouler. Donc, c'est aussi moins d'entretien qu'un cheval, hein, un vélo quand même. Et puis, parce qu'avant, les vélos étaient lourds, ils étaient pas faciles, mais là, c'était mieux conçu pour les femmes, selon les préjugés aussi de l'époque. Mm-hmm. Puis la mode des vélos a aussi changé la mode vestimentaire. Hein. Les jupes ont raccourci pour favoriser les déplacements, puis les femmes ont commencé à être un petit peu plus libres.
OK.
Et puis en même temps, les docteurs ont découvert que le sport féminin était bon pour la santé. Donc, les femmes ont commencé à faire un petit peu plus de sport, mais des activités jugées élégantes, individuelles et sans contact. Donc, pas le droit de jouer au soccer, au baseball ou à la crosse. Donc, les docteurs disaient vraiment que les femmes étaient pas faites pour courir, juste pour nager, danser ou monter à cheval.
Il est là. OK.
Ça a changé, heureusement.
Oui.
En 1900, à Paris, les femmes ont enfin le droit de participer aux Jeux olympiques. Sur 997 athlètes, il y avait 22 femmes. Donc, c'était quand même beaucoup.
Oui, pour l'époque, oui.
Pour l'époque, c'est ça. Puis graduellement, les femmes ont commencé à jouer au hockey, à la balle molle, au basketball, mais les équipes n'étaient pas très soutenues par la communauté. C'était vraiment pour le fun. Il y avait quand même quelques compétitions de gymnastique, d'athlétisme, de natation, mais vraiment pas beaucoup. Mm-hmm. Puis pendant ce temps-là, les femmes autochtones étaient encore exclues de tous les sports, que ce soit des sports d'équipe ou des sports plus gracieux, comme je disais tantôt. Les seules exceptions, c'était la balle molle. C'était le seul sport que les femmes autochtones avaient le droit de pratiquer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes vont travailler, comme beaucoup d'hommes sont partis. Elles ont commencé donc à faire plus de sport. On peut le voir justement dans le film Une ligue en jupon, qui est sorti en 1992. Donc, il y a eu des ligues, des tournois de femmes. Mais après la guerre, quand les hommes sont revenus, les femmes, ben, ils ont gentiment encouragé à revenir à la maison.
Ouais, non, c'est ça, c'est pas rester, là.
Non, c'est pas rester, là. Donc, faire des sports qui accentuaient sur la beauté, la grâce et les concepts de féminité de l'époque. Donc, jusqu'en 1960, là, la société a commencé à changer tranquillement. La femme a commencé sa libération. Et puis, ça s'est vu partout, même dans le sport. Mais les femmes avaient encore peu d'appui, même si elles s'affirmaient de plus en plus. Puis, dans les années 80, les mentalités ont pris du temps encore à changer. Même les commentateurs, ils mélangeaient des éloges, un ton paternaliste ou condescendant pour parler des athlètes féminines. C'était pas mm-hmm. fort. Par exemple, un article du Sport Illustrated publié en 1983 sur Carling Bassett, qui était une joueuse de tennis, parle d'elle comme du projet de son père ou de la poupée à son papa.
Ah, 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 ah,
non, c'est ça, c'est pas fort. Puis la pression pour l'image parfaite a fait en sorte que cette joueuse-là se fait de boulimie après, donc ça peut créer des problèmes de santé.
Mm-hmm.
Puis, aussi dans les années 80, il a commencé à avoir de plus en plus une sexualisation du sport féminin. Au lieu de parler des performances, les médias parlaient de la beauté des sportives, même si il y avait la Charte canadienne des droits et libertés qui interdisait la discrimination sexuelle depuis 1982, mais c'était pas trop respecté à ce moment-là. Puis il y a beaucoup de femmes qui connaissent du succès dans le sport, même si maintenant les chroniqueurs se concentrent plus sur les performances et les habiletés athlétiques. Les campagnes de marketing utilisent encore beaucoup la sexualisation pour promouvoir le sport féminin.
Mm-hmm.
La Fédération internationale de volleyball, par exemple, a obligé les joueuses à porter des bikinis à toutes les compétitions jusqu'en 2012.
Oui, c'est vrai ça.
Mm-hmm. C'est vrai, oui. Il y a aussi la Lingerie Football League qui organise des matchs en lingerie depuis 2009.
Ah, c'est récent. Ça existe encore. 2009, puis ça existe encore. Et là, là, OK, il y a du chemin à faire, là. Seigneur.
Ah oui. Il y a aussi des séances de photos en petite tenue ou sans tenue, carrément, qui sont organisées par des magazines comme le Sport Illustrated ou les photos que certaines joueuses mettent sur les réseaux sociaux. Donc, l'hypersexualisation dans les sports est toujours présente. Donc, bref, c'est un problème qui est loin d'être réglé. Le sport, il est là pour mieux se sentir, pour être en forme, pas pour mettre de la pression sur les standards de beauté qui sont mis en place par la société. Alors, j'espère que ça va bien évoluer pour l'avenir, puis que c'est ça. On souhaite le mieux pour les femmes et pour tout le monde.
Absolument. En cette journée internationale du sport féminin, Jean-François Chabot, un grand merci, puis à lundi prochain.
Oui, à lundi. Merci, Sébastien.